La première édition du Festival d'astronomie Les Dames des Lacs se tenait au bord du lac du Laouzas dans le Tarn. C'était samedi dernier, le 16 juillet. Une première édition réussie avec plus de 1500 visiteurs. Un festival autour des étoiles, de l'univers, des sciences, mais aussi de la musique. Nous étions sur place dès le début de la soirée et le début de la nuit, à la tombée du jour. Nous avons rencontré pour vous des spécialistes du ciel. Je vous propose de retrouver tout de suite Nicolas Massas, médiateur scientifique pour Planète Science Occitanie.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes
bonsoir.
Bonsoir même, oui. Médiateur scientifique. Vous êtes donc animateur à Planète Science Occitanie. Peut-être un mot sur Planète Science Occitanie.
Alors Planète Science Occitanie, c'est une association régionale. On est une association nationale. Il y a des antennes un petit peu partout en France. Et on est une association de vulgarisation scientifique, pas mal technique. Et on fait des séjours pour les petites vacances, pour les grandes vacances. Vous pourrez nous retrouver à Toulouse, à la Stèle d'Espace, pour la Nuit des Étoiles cet été, comme tous les étés. Et on a aussi une petite Nuit des Étoiles à Ramonville, qui est plus intimiste, si ça vous intéresse. Et donc, on fait des sciences en général.
D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment en général. Et aujourd'hui, donc, vous êtes là pour venir parler d'espace.
Tout à fait, d'astronomie, oui.
D'astronomie. Alors, quand on parle d'astronomie, on parle d'étoiles, de constellations, de voies lactées, d'étoiles filantes, et j'en passe. Quelle est un petit peu la différence, déjà, peut-être, entre étoiles et constellations, puisque les constellations sont constituées d'étoiles.
Constituées d'étoiles, tout à fait. Alors, une étoile, on va dire que c'est un objet dans le ciel, un astre. Astre, c'est vraiment le mot pour dire truc, chose en astronomie.
D'accord.
C'est un astre qui émet sa propre lumière. Par exemple, le Soleil, c'est une étoile. C'est la plus proche de nous, c'est la plus importante pour nous, mais c'est une étoile tout à fait standard parmi les milliards
D'accord.
qu'il y a autour de nous. Et une constellation, c'est un dessin avec plusieurs étoiles à l'intérieur, on va dire au minimum deux. Il y a des constellations à deux étoiles.
D'accord, un exemple peut-être ?
Les chiens de chasse.
D'accord.
C'est juste deux, je vais dire, deux pauvres étoiles. Après, la plus connue, c'est la Grande Ourse, hein, qui en a un petit peu plus. Et donc c'est un dessin vu depuis la Terre, qui n'existe pas en vrai. Les étoiles n'ont rien à voir entre elles. Mais depuis la Terre, on a l'impression que ça dessine quelque chose dans le ciel. Et les anciens, nous, dans notre mythologie, on en a 88. Qui
D'accord.
viennent essentiellement de la mythologie grecque.
D'accord, et c'est aussi nos signes astrologiques, c'est ça,
c'est
on peut
aussi
dire
les signes astrologiques, oui, ça a été récupéré par les astrologues à la base. À la base, il y a très très longtemps, du temps des Mésopotamiens, astrologie et astronomie étaient mélangés, puisqu'ils étudiaient les étoiles pour essayer de prévoir l'avenir. Assez vite, quand même, il y a deux choses qui se sont différenciées. Il y a l'astronomie, la science de l'étude des étoiles, et l'astrologie, qui est la croyance qu'on peut attribuer des propriétés à tout ça.
D'accord.
Nous, on fait de l'astronomie. On reste dans les sciences.
D'accord.
Et voilà, donc c'est juste des dessins dans le ciel qui sont très utiles pour se repérer.
D'accord, donc là, je comprends. Donc vous disiez la Grande Ourse en forme de casserole pour certains.
Moi,
je trouve d'un chariot. Chacun voit
dans certaines mythologies, ils l'ont appelé le chariot, justement.
Voilà, ah bon, mais ça va alors. Je ne suis pas complètement
folle. Et même si vous la regardez et que vous trouvez que ça ressemble à un sandwich au fromage, ça peut arriver si vous avez très faim.
D'accord.
Vous avez autant raison que les gens qui disent que c'est un chariot ou une casserole.
D'accord.
C'est vraiment un dessin.
Voilà. D'accord. Alors, il y a d'autres. Par exemple, on parle d'étoiles filantes, mais ce n'est pas vraiment une étoile qui tombe du ciel.
Non, ce n'est pas une étoile qui file. Si on a une étoile qui tombe sur Terre, on va être très, très, très mal, globalement.
Oui, je comprends.
En fait, une étoile filante, c'est une petite poussière qui vient souvent des comètes, par exemple. La plus connue étant la comète de Halley, et qui vont s'écraser sur Terre. Et qui vont brûler, en fait, dans l'atmosphère, dans la haute atmosphère, hein, vers les 80 km, donc c'est très, très
D'accord.
haut. Et ça brûle tellement fort qu'on va voir, en fait, cette lumière.
Alors, mais des questions bêtes, parce qu'on dit la première quinzaine d'août, c'est vraiment ouais. les nuits des étoiles filantes.
Tout à fait.
Pourquoi cette période-là ?
Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a une vraie pluie d'étoiles filantes.
Mais j'ai plein de questions, je vous préviens.
On n'aura pas le temps de réponse, donc il n'y a pas de souci.
On n'aura pas le temps d'y répondre à tout, je pense.
Donc, en fait, c'est pas un hasard si on a mis les nuits des étoiles à ce moment-là. C'est l'Association française d'astronomie qui organise ça en France.
D'accord.
En fait, début août, il y a une pluie d'étoiles filantes qui s'appelle les Perséides, parce qu'on les voit comme si elles venaient de la constellation qui s'appelle Persée. Et c'est le pic de ces étoiles filantes-là. Qui
D'accord.
viennent d'une comète qui s'appelle Swift Tuttle, si je me souviens bien.
Ok.
Voilà, qui est périodique, c'est-à-dire qui revient régulièrement. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre les nuits des étoiles filantes à ce moment-là. Des pluies d'étoiles filantes, il y en a tout au long de l'année. Il y en a une vers octobre-novembre, si je me souviens bien, c'est les Draconides. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile de faire sortir les gens la nuit en octobre qu'en plein mois d'août. Donc c'est pour ça qu'on fait plutôt de l'astronomie l'été, parce que c'est plus facile de dire aux gens « venez nous voir dehors ». Au mois de décembre, ça sera un peu plus compliqué.
Mais voilà, vous répondiez à une de mes questions, parce que finalement, l'hiver, les nuits sont plus longues.
Les nuits sont plus longues.
Et finalement, on observe moins le ciel à ces
ouais.
périodes-là.
Alors, je veux dire, les gens Le public, oui, mais les astronomes, au contraire, le font beaucoup l'hiver, parce que comme il fait froid, le ciel est plus stable. C'est un peu comme quand vous allumez une bougie, vous voyez que c'est trouble au-dessus de la bougie. Bah, avec la chaleur de l'été, en fait, le ciel est un peu trouble. Alors que si vous venez l'hiver, c'est beaucoup plus froid, et donc c'est beaucoup plus stable. Et c'est pour ça que les gros observatoires professionnels, je pense notamment au Very Large Telescope ou à l'observatoire ALMA, sont au Chili, en altitude, et d'accord. Donc là, le ciel est super stable.
Et alors, j'en profite, tiens, puisqu'on en a beaucoup parlé cette semaine, c'est le télescope James Webb, ouais, qui est parti dans l'espace.
Tout à fait.
Et qui nous ramène des photos assez magiques. Alors, je suppose qu'en plus, pour un scientifique comme vous, c'est encore plus formidable. Quelle est un petit peu sa spécificité à ce télescope ?
La grosse spécificité du James Webb Space Telescope, qui est parti, donc c'était le 25 décembre avec une Ariane 5, depuis Kourou. Hein.
D'accord. C'est un beau cadeau de Noël.
C'est ça. Ben, moi, j'ai suivi pendant le repas de Noël le lancement. J'ai embêté les gens avec qui j'étais. C'était obligé de le regarder.
Je comprends. Il y en a, c'est les matchs de foot.
C'est ça. Moi, ça dure moins longtemps. Parce que ça dure 10 minutes s'il n'y a pas de
problème.
S'il n'y a pas de problème de retard. L'intérêt du James Webb, c'est que c'est déjà le plus gros télescope qu'on a envoyé dans l'espace. Tout le monde connaît, je pense, le télescope Hubble, qui était un télescope américain. Mais l'Europe a participé également. C'est un télescope qui faisait 2,4 mètres, je crois, ou 2,5 de diamètre. Donc c'est la taille du diamètre du miroir principal. En astronomie, c'est la taille qui compte. Plus vous avez un gros miroir, mieux ça marche.
D'accord.
Plus vous êtes sensible. Le James Webb, il est à 6,5 mètres. À la base, dans les premiers plans, il devait être à 8 mètres, mais pour différentes raisons de facilité, ils l'ont réduit.
D'accord.
Mais déjà, 6,5 mètres, c'est assez énorme. Y a des télescopes sur Terre qui sont plus gros que ça. Mais 6,5 mètres dans l'espace, ça commence à être pas mal. Et c'est un télescope qui va regarder dans l'infrarouge, là où Hubble était regardé dans plein de choses. Il regardait dans le visible, c'est-à-dire la lumière que nous, on peut voir avec nos yeux, et dans des choses à côté. Le James Webb va regarder beaucoup plus dans l'infrarouge, qui est invisible à nos yeux, mais qui est intéressant parce que ça passe à travers les poussières.
D'accord.
Dans l'espace, vous avez plein de nuages de poussière un peu partout, et là, on peut voir à travers.
Et c'est pour ça que, du coup, on peut voir hyper loin.
On peut voir. Alors, Hubble pouvait déjà voir loin, et en plus... on rentre un petit peu dans du plus technique, c'est les galaxies, quand elles s'éloignent de nous, leur lumière va faire ce qu'on appelle, elle va se décaler vers le rouge. C'est un peu comme quand vous avez une ambulance qui vient vers vous.
Oui.
Quand elle vient vers vous, ça devient plus aigu et après ça devient plus grave. Bah là, c'est le même effet, entre guillemets, l'infrarouge, vraiment avec des grosses guillemets, ça va être les graves de la lumière. Et donc, pour voir des choses qui sont très loin, il faut voir dans l'infrarouge. Et c'est pour ça que le James Webb regarde principalement dans l'infrarouge.
Bon, mais vous nous aurez éclairé. Et donc, on suivra un petit peu les prochaines photos qui devraient sortir.
Et déjà, je finis là-dessus. C'est intéressant puisqu'il a regardé dans la nébuleuse de la Carène, qui est une très belle photo d'Hubble. Et il y a des gens sur Internet qui se sont amusés à mettre les deux photos l'une sur l'autre. Et on voit vraiment la différence. C'est-à-dire que la photo d'Hubble est très, très belle. Et la photo du James Webb Space Telescope, on voit derrière la photo de Hubble. C'est assez impressionnant.
D'accord, donc allez voir sur Internet.
Voir sur Internet. Ouais, les photos sont publiques, hein, c'est gratuit, il n'y a pas de souci.
Allez, ça va être ma dernière question. Après, je vais vous laisser aller travailler un petit peu du côté de Planète Science Occitanie, hein, qui est juste derrière nous. Quel est peut-être le lien entre les hommes et le ciel? Et ça, c'est une question...
Alors, est-ce que vous avez 2 heures?
Voilà, je pensais qu'on pouvait faire un petit sujet de philo, là.
on peut complètement... l'homme, globalement, a toujours été intéressé par le ciel. Et d'ailleurs, on le voit avec la mythologie dont on parlait au début. L'homme a très vite fixé dans le ciel ses propres légendes. Et ça, c'est quelque chose qui a été assez maintenu, en fait. Puis c'est au-dessus de nous, c'est assez mystérieux. On a toujours regardé le ciel avec beaucoup de questions. Et finalement, un des aspects, je vais en dire entre guillemets, romantique de la conquête spatiale, ça a été de gagner les étoiles, d'y aller, d'aller sur la Lune notamment, ce qu'ont fait les Américains à quelques reprises. Et donc, il y a toujours eu une fascination depuis assez longtemps, je pense depuis que l'homme est homme, à peu près, hein, au sens humain, évidemment. Et c'est quelque chose qui continue, et nous on le voit sur à chaque fois qu'on fait des soirées astro, on a toujours plein de questions, les gens sont toujours très très intéressés, et je ne peux que conseiller aux gens d'aller voir les soirées astro, ne serait-ce que les Nuits des Étoiles, c'est national, donc c'est super intéressant. Voir pour la première fois une nébuleuse ou une planète en vrai, c'est une vraie émotion. Vous pouvez l'avoir vu des dizaines de fois sur un ordinateur en bien meilleure qualité quand vous voyez Saturne pour la première fois en vrai, c'est autre chose.
Bon, je viendrai voir ça dès la fin d'émission. Je vous remercie vraiment, Nicolas Massas. Je rappelle, médiateur scientifique pour Planète Science Occitanie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'ici quelques minutes, nous continuerons notre immersion dans la première édition du Festival d'Astronomie Les Dames des Lacs, qui se tenait donc ce week-end du côté du lac du Laouzas dans le Tarn. Nous serons avec Christophe Baillet du Planétarium Observatoire de Montredon-la-Bessonnière, toujours situé dans le Tarn. Avec lui, nous parlerons de ce qu'il faut pour observer des étoiles, quel type de télescope, mais aussi quelles conditions atmosphériques. Ne bougez pas, restez avec nous sur CFM.